2014. Le vrai, c'est l'autre. Il y a deux individus en chaque personne. Le vrai, c'est l'autre. Jorge Luis Borges. Zéro. Une explosion. Le bruit confus de la foule. Des tambourins, la musique d'une fanfare, des coups de gong, des pétards qui éclatent, une odeur repoussante de poisson macéré, des effluves exotiques d'épices, de friture, de viande fumée. Je reprends connaissance difficilement, j'ai le corps déglingué. Une barre métallique m'écrase la pommette, une autre me compresse le torse. J'ai l'impression d'être suspendu dans le vide, dans un équilibre instable. Soudain, je me sens tomber. Bon sang ! Réveil brutal. J'ouvre les yeux, et effectivement, mon corps est en train de dégringoler le long d'une rampe de fer. Je déploie mon bras au petit bonheur la chance et me raccroche comme je peux. Une fois ma chute freinée, j'ouvre les yeux et découvre la tête énorme et menaçante d'un dragon rouge. 1. Un dragon, puis un autre. Une armée de dragons, de lions, de chevaux qui ondulaient sous mes yeux, animés par des hommes camouflés. J'étais perché plusieurs mètres au-dessus du sol, la tête à l'envers, les bras ballants. Je me redressai, puis me mis debout. Je me trouvais sur le palier d'un escalier de secours extérieur. Un fire escape métallique accroché à la façade d'un immeuble de briques. Dans la rue, c'était l'effervescence. Un cortège animé se mettait en branle, des chars multicolores, des drapeaux de couleurs vives, des acrobates, des danseurs, des animaux gigantesques en papier mâché. Je connaissais cette artère étroite avec ses bâtiments sombres, un peu crasseux, et ses petites boutiques surmontées d'enseignes lumineuses et d'idéogrammes. J'étais à Chinatown, sur Mott Street, de là où partait chaque année le défilé pour célébrer le Nouvel An chinois. De fait, l'ambiance était festive. Des rubans flottaient au vent, des confettis voltaient dans le ciel, des pétards explosaient pour chasser les mauvais esprits. Je dévalais les marches pour atterrir sur le trottoir. Une affichette placardée sur un poteau indiquait la date du jour. Nous étions le dimanche 2 février 2014 et l'itinéraire du défilé. World Street, East Broadway, puis Roosevelt Park. Je fendis la foule, dense et compacte, pour m'extraire de la procession. En descendant Mulberry Street, je remarquai plusieurs taxis, dont le dôme publicitaire semblait me narguer en annonçant la sortie prochaine de Lover, le nouveau roman de Nicholas Hull. Je fis une pause à Columbus Park, le poumon de Chinatown. L'ambiance y était beaucoup plus tranquille. C'était un bel après-midi d'hiver. Des températures douces, un ciel pur, une brise vivifiante, un soleil au zénith qui poudroyait entre les branchages. Installés autour de tables en pierre, de vieux Chinois qui jouaient au mahjong et au domino cohabitaient harmonieusement avec les adeptes du tai chi, les musiciens et les jeunes couples qui pique-niquaient avec leurs enfants.
« Papa !»
L'interpellation me fit tressaillir. Je me retournai en direction d'une fillette inconnue, assise sur un banc de bois, un carnet à dessin posé sur les genoux. Puis elle me sourit et mon cœur s'accéléra. C'était ma Sophia. Il y avait une chance sur 1 million pour que je la rencontre par hasard. Sullivan avait raison. Aucun des voyages n'était aléatoire. Tous obéissaient à une logique. « Ça va, ma belle ?» dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Je ne l'avais pas vue grandir. Le cliché annoncé par tous les parents n'avait jamais été aussi approprié. Je l'avais quittée bébé, je la retrouvais petite fille avec de longs cheveux aux reflets d'or, retenus par des barrettes nacrées et portant une robe élégante à col Claudine.
« Ça va, papa ?»
Je scrutais les alentours. À 10 mètres, sur un banc, la baby-sitter suédoise n'avait d'yeux que pour l'écran de son téléphone portable.
« Tu m'as reconnue, Sophia ?»« Bien sûr. Maman me montre souvent tes photos. »
J'avais du mal à retenir mes larmes.
« Si tu savais comme je suis content de te voir !» dis-je en la serrant dans mes bras.
Je la pris par la main pour m'éloigner de sa nounou.
« Viens, ma puce, je vais t'offrir un goûter. »
Je l'entraînai vers les stands des marchands ambulants et commandai un cappuccino, une orangeade ainsi qu'un assortiment de spécialités locales. Gingembre confit, fruits séchés, gaufrettes de Hong Kong, chips de racines de lotus.
« Tout le monde va bien à la maison ?»
manquis-je en déballant nos provisions sur une table en fer.
« Ça va pas mal !»
assura-t-elle en croquant dans un biscuit. Elle étala ses feutres, son carnet, et se remit à dessiner.
« Et ton frère,
Tu t'entends bien avec lui ?
Oui, Ben est gentil.
Et maman ?
Elle est souvent à son travail.
Je pris une gorgée de mon café.
Elle voit toujours Nicolas ?
Oui, bien sûr,
dit-elle en levant les yeux vers moi.
On habite tous chez lui maintenant.
Cette affirmation me fit bondir. Je lui demandai de répéter pour être certain d'avoir compris.
« J'ai ma chambre à moi, tu sais, »
précisa-t-elle. « Mais depuis quand vivez-vous là-bas ? » ?
« Quelques mois, un peu avant Thanksgiving. »
Je soupirai et me pris la tête dans les mains.
« Il ne faut pas que tu sois triste, papa. »
Je terminai mon café. « Maman est toujours en colère contre moi ?» Sophia me regarda d'un air ennuyé.
« Je crois bien, oui, »
dit-elle en secouant son orangeade. Puis elle ajouta en me tendant la bouteille qu'elle ne parvenait pas à ouvrir.
« Mais maman sait que ce n'est pas ta faute, ce qui est arrivé. Elle sait que tu n'y peux rien. »
Je lui caressai les cheveux. « Écoute, mon cœur, tout ça va bientôt s'arrêter. Dès l'année prochaine, on pourra se voir tout le temps, tous les jours. » Ma petite fille secoua la tête.
« Je crois pas, non ?»«
Pourquoi tu dis ça ?»«
Ben m'a dit qu'on allait mourir. C'est Sullivan qui le lui a appris. »
Je m'insurgeais.
« Mais non, chérie, c'est des conneries, tout ça.
T'as dit un gros mot.
Oui, et je le maintiens. Personne ne va mourir, ok ?»«
Ok, »
dit-elle, davantage pour me faire plaisir que parce que je l'avais convaincue. Je lui servis un peu d'orangeade dans un gobelet en carton.
« Tu crois que maman est toujours amoureuse de moi ?»«
Je sais pas, »
répondit-elle un peu gênée. « Et tu crois qu'elle est amoureuse de ce Nicolas Hull ?»«
Papa, je sais pas, j'ai que 6 ans. »
J'entendais une voix qui appelait.
« Sophia ?»
Je me penchai en arrière. À l'autre bout du parc, la babysitter venait de s'apercevoir de la disparition de l'enfant qu'elle était censée surveiller. Je n'avais plus beaucoup de temps.
« Où habite-t-il, Nicolas ?»«
J'ai oublié l'adresse. » »«
Fais un effort, s'il te plaît, mon chat. »
Elle se concentra, puis, au bout de quelques secondes,
« Quand on est dans l'ascenseur, on appuie sur le bouton 33. »«
D'accord, mais dans quel quartier ?»«
Je connais pas les quartiers. »
« Alors, dis-moi où tu peux aller à pied en sortant de l'immeuble.
Parfois, on va manger un hamburger dans un restaurant qui s'appelle The Odeon. »«
D'accord, je connais ce resto, c'est à Tribeca. À quoi ressemble l'immeuble dans lequel tu habites ?»«
Il est tout neuf. Les gens l'appellent parfois la tour de Jenga, comme le jeu en bois. »«
D'accord, je trouverai, » dis-je en ébouriffant ses cheveux. « Tu es trop forte, ma fille. »«
Sophia !»
Cette fois, la babysitter nous avait repérés. Je me levai de la chaise et embrassai ma fille.
Au revoir, ma puce. On se voit l'année prochaine. J'aurai plein de temps. On fera des tas de choses ensemble, d'accord ?
D'accord,
répondit-elle en m'adressant un beau sourire.
Tiens, je t'ai fait un dessin.
Je pris la feuille qu'elle me tendait, la pliai et la mis dans ma poche, avant de quitter le jardin public par le nord.
2. Une sculpture de cristal, étroite et longiligne, qui culminait à 250 mètres de haut. Située au croisement de Wall Street et de Broadway, le Tribeca 4 était l'une de ces résidences modernes et luxueuses qui, depuis la fin des années 2000, poussaient comme des champignons dans le ciel de Manhattan. Architecturalement, la tour était constituée de maisons de verre, de tailles et de formes différentes que l'on aurait posées les unes sur les autres. Chaque étage étant unique, le gratte-ciel ressemblait de loin à une pile de livres sur le point de s'effondrer. La construction devait connaître des détracteurs, mais elle était originale et elle tranchait avec les immeubles anciens de ce quartier historique. Mais comment pénétrer dans un tel bâtiment ? Me demandai-je alors que mon taxi s'arrêtait devant le Tribeca 4. L'un des deux hommes en livrée se précipita pour m'ouvrir la portière. Je sortis de la voiture avec assurance et pénétrai dans le gratte-ciel sans que l'on m'ait posé la moindre question. D'une hauteur de 10 mètres environ, le hall d'entrée était à mi-chemin entre la zone d'embarquement d'un aéroport et la salle d'exposition d'un musée d'art moderne. Des murs de verre, des toiles abstraites et minimalistes, une forêt de bonsaïs qui se profilait le long d'un mur végétal. Une passerelle translucide monumentale desservait une batterie d'ascenseurs qui menait aux appartements. Une fois dans la cabine, je m'aperçus que l'appareil nécessitait un code ou une empreinte digitale pour pouvoir accéder aux étages. J'allais renoncer lorsqu'une sorte de groom, les bras chargés de paquets de marques de luxe, entra dans la capsule, me salua et tapa une suite de chiffres sur le pavé numérique. Il appuya sur le bouton de l'un des penthouses situés au sommet de la tour et, dans la foulée, me demanda «
Quel étage, monsieur ?»«
Le 33e. » Je le laissai manœuvrer et quelques secondes plus tard, j'étais devant l'entrée de l'appartement de Nicholas Hull. La porte était entrebâillée.
« Il n'y a pas de hasard !»
sembla me murmurer la voix de Sullivan. Je pénétrai dans le hall sans faire de bruit, puis m'avançai dans le salon à la décoration moderne mais chaleureuse. Les rayons du soleil de fin d'après-midi traversaient l'appartement de tous les côtés, le transformant en un lieu presque surréaliste. Une lumière douce, cuivrée, presque vivante, qui semblait tournoyer autour de moi. Un boa constrictor de poussière dorée qui cherchait à m'envelopper. Je m'avançai vers les larges baies vitrées et sortis sur le balcon protégé par des garde-corps cristallins. D'ici, on embrassait l'East River, le Brooklyn Bridge, la couronne dorée du Municipal Building, la nouvelle tour miroitante du One World Trade Center. La vue était magique. L'endroit était époustouflant. Mais quelque chose me mettait mal à l'aise. Ce vaisseau de verre était trop désincarné. Il me donnait l'impression d'être coupé de ce que j'aimais vraiment. Les gens, la rugosité de la rue et des rapports humains, la vie. Je retournai dans l'appartement. Accroché au mur, je reconnus des photos de Lisa et des enfants. Des éclats de rire, des signes de complicité, des moments de bonheur captés sur pellicule. La preuve que leur vie continuait sans moi. La preuve que je ne leur étais pas indispensable. Je m'arrêtai devant un magnifique portrait de ma fille au ton sépia. J'avais été bouleversé de la revoir et elle me manquait déjà tellement. Tout en continuant à explorer le salon, je fouillais dans ma poche pour prendre la feuille sur laquelle Sophia m'avait fait un dessin. Dans un coin de la pièce, un grand bureau en noyer supportait des piles de livres en attente d'une dédicace. Les exemplaires du dernier bouquin du maître des lieux. Un gros roman dont la couverture reproduisait un célèbre tableau de Magritte représentant le baiser d'un homme et d'une femme dont les visages étaient chacun recouverts d'un drap blanc. En lettres argentées, le titre du livre, suivi du nom de l'auteur, se détachait sur un fond sombre. Lover, Nicholas Stuart Hull. Je dépliai le papier que j'avais précieusement rangé dans ma poche, mais au lieu du dessin promis par ma fille, il y avait une inscription calligraphiée en grosses lettres bâton. « Tu veux connaître un secret, papa ?» Je sentis un frisson me secouer le corps. Je retournai la feuille et je lus. « L'écrivain, c'est toi ?» Je ne compris pas tout de suite ce que Sophia avait voulu me dire. Mes yeux fixèrent de nouveau la couverture du roman. « Lover, Nicholas Stuart Hull. » Tout à coup, je fus pris d'un début de vertige. Et les lettres s'animèrent dans mon esprit pour former une anagramme qui me déstabilisa. Arthur, Sullivan, Costello. Affolé, je saisis l'un des bouquins et le retournai. Sur la quatrième de couverture, on pouvait lire une courte biographie de Nicholas Hull, illustrée par son portrait. Cette photo, c'était la mienne. Trois.
Ne me dis pas que tu es surpris.
Quelqu'un venait de pénétrer dans la pièce. Je me retournai pour découvrir mon portrait craché. Un clone. Un autre moi-même, un peu arrogant, débarrassé de ma pesanteur, de ma gravité, de mes soucis, de cette anxiété que je portais chevillée au corps et au cœur depuis toutes ces années. J'étais tétanisé par la surprise, par la peur.
« Qui es-tu »
réussis-je à articuler.
« Je suis toi, bien sûr !»
affirma l'autre en avançant vers moi.
« Sérieusement, en 24 ans, tu n'as jamais envisagé cette solution ?»«
Quelle solution ?» Il eut un rire moqueur et attrapa un paquet de Lucky Strike qui traînait sur le bureau.
« Ton père se trompait. Le véritable problème dans la vie, ce n'est pas qu'on ne peut faire confiance à personne. »
Il gratta une allumette et alluma sa cigarette avant de poursuivre.
Non, le vrai problème, au fond, c'est qu'on n'a jamais qu'un seul véritable ennemi. Soi-même.
Il s'approcha d'une desserte et se servit un verre de whisky japonais.
Tu veux connaître la vérité sur le phare ?
Devant mon silence abasourdi, il poursuivit.
La vérité, c'est que certaines choses sont irréversibles. Tu ne peux pas les effacer, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas être pardonné. Tu dois t'arranger pour vivre avec et pour ne pas causer d'autres dégâts. C'est tout.
Des gouttes de sueur perlaient sur mon front. Je sentais la colère monter en moi comme une vague menaçante.
Et quel rapport avec le phare ?
Avec volupté, il rejeta une bouffée de fumée.
Ah, d'accord. Tu me prends pour un idiot, persifla-t-il. En fait, tu ne veux pas connaître la vérité.
J'en avais assez entendu. Mon regard était hypnotisé par un coupe-papier posé sur le bureau. Un bel objet qui ressemblait à un katana miniature en ivoire incrusté. Fou de rage que cet autre moi joue impunément avec mon existence, je me saisis de l'arme et la pointai vers mon double en me rapprochant de lui.
« Pourquoi cherches-tu à me voler ma vie ? Je ne vais pas te laisser faire. Je vais récupérer ma femme et mes enfants. Je ne veux pas les perdre !»
Sa bouche se déforma tandis qu'il partait dans un éclat de rire.
« Tu ne veux pas les perdre ? Mais, espèce d'abruti, tu les as déjà perdus !»
Pour le faire taire, je lui assenai plusieurs coups de lame au niveau de l'abdomen. Il s'écroula, en sang, sur le parquet blanc. Je restai plusieurs secondes immobile, statufié, essayant de comprendre une situation qui dépassait la raison. Puis, pour la dernière fois, ma vision se troubla et l'image sauta devant mes yeux, comme sur les vieux postes de télévision de mon enfance. Mon corps fut pris de picotements, se contracta brutalement avant d'être secoué de mouvements secs et incontrôlables. Il se délita, se dévitalisa, se détachant de la réalité en se consumant dans une odeur de sucre brûlé. Il y eut ensuite une détonation sourde, comme un coup de feu étouffé par un silencieux. Et au moment où je m'évaporais, l'image de ma femme et de mes enfants s'imposa dans mon esprit. C'est alors que l'évidence me creva les yeux. Contrairement à ce que j'avais toujours cru, ce n'était pas moi qui disparaissais. C'était eux.